Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute!
Merci à toutes les personnes qui nous écoutent depuis le début de ce projet et à celles qui nous ont découvert dernièrement. Grâce à vous, ce balado a connu un bel essor depuis 2022 avec une augmentation du temps d'écoute, de diffusion et des auditrices et des auditeurs. Un grand merci. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on ouvre notre micro à Noémia Roberto, professeure au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais. Parmi ses domaines de spécialisation, on trouve l'orthopédagogie, l'orthodidactique du français et l'intégration du numérique pour favoriser l'apprentissage du français, plus particulièrement l'écriture. Bonjour Noémia.
Bonjour Christelle.
Aujourd'hui, nous allons parler des outils d'aide technologique pour favoriser l'apprentissage de l'écriture chez les élèves qui ont des besoins particuliers. On va s'attaquer à un grand sujet, donc c'est la raison pour laquelle on a décidé au cours de l'épisode de cibler quelques profils, d'y aller graduellement également. Donc Noémia va nous accompagner dans la compréhension de cette problématique. Un petit rappel amical qu'on a voulu faire, Lucille et moi, les fonctions d'aide doivent être au service des besoins de l'apprenant et de l'apprenante. Et ce que l'on présente permettra d'amorcer, on le souhaite, de bonnes réflexions quant aux outils à proposer à vos élèves. Pour mettre la table, Eugénia, tu nous as parlé dans la rencontre préliminaire, en fait, la première fois qu'on s'était rencontrés, que ton expérience sur le terrain a fait émerger une préoccupation particulière en lien avec l'organisation des services d'orthopédagogie dans les écoles. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage?
Oui, avec grand plaisir. Bien, il y a une dizaine d'années, en fait, là, en parallèle au moment où j'effectuais ma maîtrise puis mon doctorat, j'ai eu l'occasion de travailler comme orthopédagogue dans différents milieux, plus particulièrement là, les 7-8 dernières années dans une école secondaire privée où j'ai eu l'occasion de mettre sur pied un service d'orthopédagogie. L'établissement en question avait vraiment le souci d'inclure les élèves HDAA. Pour vous mettre en contexte, la première année, je pense qu'il y avait une vingtaine d'élèves HDA qui avaient été intégrés. Parmi ces 20 élèves-là, il y en avait peut-être 2, 3 ou 4 qui utilisaient des ordinateurs. 5, 6 ans plus tard, le nombre d'élèves HDA intégrés a grandi de manière exponentielle. On parlait à peu près de 120 élèves, dont près de la moitié, donc à peu près 60, utilisaient un ordinateur portable. Cette forte croissance-là, bien, ça m'a amené à me questionner sur l'organisation des services, notamment en ce qui a trait à mon rôle comme orthopédagogue par rapport à l'intégration des outils d'aide technologique. J'ai toujours eu le soutien de ma direction qui est extraordinaire dans tout ça. J'avais, oui, comme tâche, bien entendu, de former les élèves à l'utilisation des aides techno, accompagner les enseignants, mais il y avait une partie aussi, toute autre tâche connexe, si je peux me permettre d'appeler ça ainsi, qui concernait justement le prêt des ordinateurs auprès des élèves, des parents, effectuer les commandes, les logiciels, organiser la séance d'examen, par exemple, ministériel à la fin de l'année ou secondaire, par exemple, qui avait besoin d'utiliser l'ordinateur pour l'examen, exemple, en univers social, en français, écriture, en mathématiques. Quand tu as une vingtaine d'élèves, ça gère relativement bien. Par contre, comme le nombre d'élèves a vraiment augmenté de façon assez importante, puis que je travaillais à temps partiel, à raison de 2-3 jours par semaine, ben, mon année est venue comme une espèce de surcharge. Puis là, je me dis, oups, comment je peux être efficace? Comment je peux organiser mon service? Autrement dit, comment je peux soutenir les élèves qui s'approprient leurs outils malgré tout ce qu'il y a à faire, malgré le nombre important d'élèves? Ces 7 années-là ont été super formatrices, mais ont à la fois soulevé beaucoup de préoccupations. Puis ça m'a amené aussi à me questionner, est-ce que je suis la seule qui vit cette situation-là? Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis inscrite dans un paquet de formations dans différentes instances. Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que, mes discussions avec mes collègues orthopédagogues au secondaire, principalement au privé, quelques amis aussi au public, il semblait avoir une tendance à ce que la partie toute autre tâche connexe, liée justement à la gestion de la flotte informatique, des bris informatiques, prenait une certaine part de temps. Mon questionnement s'est à peu près arrêté là à ce moment-là. Puis c'est là qu'en 2020, j'étais engagée à l'Université du Québec en Outaouais comme professeure-chercheure en enseignement d'adaptation scolaire. Là, de par la nature de mes nouvelles fonctions, ben là, c'était le moment de creuser un petit peu, vérifier si mes propres préoccupations étaient partagées par mes collègues orthopédagogues sur le terrain. C'est là que, avec mes collègues Judith Beaulieu puis André Moreau à l'UQO, on a reçu une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour développer un questionnaire. Puis, ce questionnaire-là, transmis électroniquement, le but, c'était, on est en mesure de sonder, c'est ça, un peu plus de 180 orthopédagogues travaillant lors d'enseignement secondaire sur différentes facettes de la tâche, dont l'éthique. Ce que les résultats nous montrent là, par rapport au volet d'éthique, c'est que il y a une très, très grande portion de temps qui est investie par les orthopédagogues pour gérer le matériel informatique, pour régler des problèmes techniques, que ce soit avec les logiciels WorkQ, Lexibar, etc., pour la gestion des piles, hein, le fameux câble d'alimentation qui reste souvent dans le sac ou dans le fond du casier, puis qu'il y a une place moindre qui était accordée à l'enseignement d'utilisation des fonctions d'aide. Pas par manque de volonté, loin de là. Mais j'étais quand même, on était quand même, pas heureux, mais le terme n'est pas bon, mais quand même que les orthopédagogues aient pris un moment de nous nommer, que ça prenait une part trop importante par rapport à ce qu'ils souhaitaient réellement faire, donc accompagner les élèves en difficulté. Puis aussi, de par la nature de mes fonctions à l'université, on est en train, on est toujours dans une perspective de, on veut offrir des programmes de formation initiale, formation continue au deuxième cycle de la meilleure qualité possible pour nos étudiants. On regarde la formation initiale, oui, les futurs orthopédagogues, futurs enseignants d'adaptation scolaire. Il y a des cours qui sont dédiés à comment utiliser les outils technologiques pour l'intégrer à leur enseignement. Dans les cours en orthodidactique du français en mathématiques, il y a une part aussi de temps qui est accordée à comment j'essaie d'accompagner les élèves en fonction de leurs difficultés en français, par exemple, ou en mathématiques. Mais c'est un peu, bref, on va dire ça comme ça. Même si on veut, les cours sont déjà tellement chargés qu'il y a une volonté de vouloir mettre un peu plus de temps. Par exemple, là, on est en train de travailler à l'actualisation, pardon, d'une maîtrise en orthopédagogie à l'UQO. On travaille très fort pour mettre davantage de cours qui portent spécifiquement sur l'intégration des TIC en lien avec l'orthodidactique de façon disciplinaire. Donc, on est tout dans cette réflexion-là. C'est super intéressant, mais voilà. Voilà où est-ce que j'en suis pour le moment. Je ne sais pas si ça répond à la question au niveau des préoccupations, là, mais voilà ce qu'il y en est à l'heure actuelle.
Mais oui, ça répond et justement, ça donne une idée des retombées de ce que donne cette préoccupation en date d'aujourd'hui. C'est intéressant. On entend aussi dans plusieurs universités qu'il y a cette réflexion pour revoir des programmes. Moi, de mon côté, j'entends beaucoup cela par rapport au bac. Et là, tu nous parles de la maîtrise. Donc, je trouve ça vraiment génial. Puis maintenant, si on se penche un petit peu petit à petit vers l'intervention, comment peut-on faire pour évaluer les habiletés de base de l'élève quant à l'utilisation du numérique, donc vraiment dans les premières étapes?
Mais je suis contente que, tu sais, on parle d'intervention, mais évaluation, intervention, c'est intimement lié, ça va de soi. Donc, avant même de parler d'intervention à proprement parler, à mon avis, il faut passer un temps pour vraiment s'assurer que les élèves soient familiers, d'une part, avec le vocabulaire informatique. Il y a plusieurs personnes qui pourraient être portées à croire que parce que, bon, les élèves de nos jours sont toutes habiles avec tablettes, cellulaires, aller voir des vidéos sur YouTube, il y a comme un faux transfert. En fait, il n'y a pas de transfert nécessairement qui se fait entre être en mesure de visionner des vidéos sur YouTube ou naviguer sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, puis être en mesure d'utiliser adéquatement un ordinateur dans un contexte scolaire ou professionnel. Donc,
Ce fameux les jeunes d'aujourd'hui sont natifs du numérique. Je prends vraiment le temps de préciser que c'est un mythe, c'est faux, ça ne veut pas dire qu'ils sont habiles à l'utiliser.
exactement. C'est ce qu'on observe sur le terrain. J'ai vu très souvent des enseignants avec toute la meilleure volonté du monde, des enseignants qui, bon, au troisième cycle du primaire, il y a des ordinateurs qui sont fournis aux élèves qui a un certain accompagnement qui est fait, puis rendu au secondaire, oups, la transition, il y a déjà beaucoup de choses à gérer pour un élève qui entre au secondaire. On sait que c'est une transition qui est pas toujours évidente. Puis moi, ben, en début d'année, mon travail, c'est bon, s'assurer que cette transition-là se fasse de façon harmonieuse. Quand j'étais orthopédagogue au secondaire, puis pour ça, ben, c'est de m'assurer est-ce que bon, l'élève avait des compétences de base en informatique. Comment il se débrouille? Fait que là, c'est là que souvent je vérifiais avec eux à quel point ils étaient familiers avec l'ordinateur, le fonctionnement dans son ensemble, sans même parler de fonction d'aide. Et à mon grand étonnement, la plupart d'entre eux étaient en surcharge cognitive. Juste le fait d'utiliser un ordinateur, c'était compliqué. Fait que dans un premier temps, je voulais m'assurer est-ce que les élèves étaient familiers avec le vocabulaire informatique. Est-ce que c'est quoi une souris, un pavé tactile, une clé USB, un port USB? C'est quoi un environnement infonuagique? Carte d'alimentation. Il y en a qui savent c'est quoi, mais pas l'utiliser. traitement de texte, le bureau d'ordinateur, etc. Une fois que, bon, je voyais qu'il était familier, c'est là que, est-ce que l'élève est en mesure de réaliser des manipulations de base? Être capable de sauvegarder un document sur le bureau de l'ordinateur? Ça, souvent, on me regardait avec des gros yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sauvegarder sur le bureau de l'ordinateur. Sauvegarder sur une clé USB, c'est pas mal. Sauvegarder dans l'environnement infonuagique. Est-ce que tu es en mesure d'imprimer le document, de retirer une clé USB correctement du port USB? Parce que très souvent, c'est retiré. Là, ça crée des problèmes au niveau de la production écrite. Oups, j'ai tout perdu. On veut éviter que l'élève vive pareille situation. Disons, par exemple, je suis dans une compréhension de texte. Je surligne du texte pour me le faire lire avec la synthèse vocale. Là, oups, tout à coup, j'accroche la barre d'espacement. Qu'est-ce qui se passe? Tout mon texte s'efface. Panique. Donc, montrer à l'élève ce qu'il est en mesure, quand pareille situation se produit, ce qu'il est en mesure de revenir en arrière. Donc, c'est toutes ces habiletés de base là, que j'appelle. Puis, une fois que ça s'est fait, là, une fois que l'élève est familier, mais là, on est en mesure peut-être d'aller un petit peu plus loin.
Puis, des fois, j'entends certains enseignants nous dire, ah, les clés USB, imprimer l'ordinateur, ou même des élèves, à quoi ça me sert? Parce qu'on est rendu un petit peu ailleurs dans l'utilisation du numérique, mais tant et aussi longtemps que les épreuves aussi et les examens ne sont pas accessibles dans un environnement infonuagique et qu'on n'a pas le droit, je mets des guillemets,
Oui, tout à fait.
de les utiliser sans Internet, ben, on n'a pas le choix que d'utiliser la clé USB, c'est bien le cas.
Oui, exactement. Puis même on parle d'espace infonuagique, juste parler de OneDrive, Google Drive, c'est vraiment des compagnies, des logiciels, vous pourrez me corriger au niveau de l'appellation, mais ça reste qu'à la base, c'est un espace infonuagique. Utiliser les mots appropriés pour les concepts appropriés, je pense que c'est important pour que les élèves puissent s'y retrouver aussi. Même chose qu'un traitement de texte, selon la plateforme que tu utilises, ben, ça n'a pas la même appellation. Chez Windows, Word, chez Mac, Pages, par exemple. Donc, voilà.
Exact, avoir un même vocabulaire pour se
Oui.
comprendre en fait. Puis si on poursuit, on fait lien maintenant l'élève et on vérifie son aisance avec ses outils d'aide numérique. Quel conseil peux-tu nous partager pour une bonne gradation des interventions par la suite si on se penche sur l'écriture?
Au niveau de l'écriture, une fois justement que j'observe que l'élève a une certaine aisance avec bon, les manipulations de base, comme je venais de mentionner, je portais une attention particulière à la vitesse de frappe au clavier. De par la nature de mes travaux en orthodidactique du français, en orthographe lexicale, je sais à quel point on sait en général à quel point le geste graphomoteur, donc l'aisance de l'élève à calligraphier, a une incidence sur l'énergie cognitive qu'il peut déployer, notamment dans le choix de ses idées, dans le choix des mots qu'il va employer. Autrement dit, si j'ai une calligraphie qui est somme toute fluide, je vais me concentrer à bon, comment les mots s'écrivent, comment les accorder, comment, bon, etc., etc. J'aime bien faire le parallèle avec la vitesse de frappe au clavier. L'objectif, ce n'est pas nécessairement qu'il y ait un doigté parfait, loin de là, c'est de voir est-ce que il y a une connaissance, somme toute, sommaire de à quel endroit se trouvent les lettres sur le clavier. Ça semble banal à première vue, mais si on voit que bon, l'élève, qui souvent est peu habile avec un clavier, va taper souvent bon, avec les deux index, la plupart du temps, son regard va être sur le clavier. Donc, ne regardera pas l'écran. Toute son énergie cognitive va être à où il se trouve le A, il est où le L. Mais à ce moment-là, ben, tout ce qui concerne la réflexion de comment s'écrit le mot, comment il s'accorde, c'est quoi mes idées, ben, ça prend un petit peu le bord. Donc, on veut vraiment pas que l'élève se trouve en situation de charge cognitive. On veut vraiment s'assurer qu'il y a une certaine aisance, de sorte que son regard soit plus souvent sur l'écran que sur le clavier. Comme ça, si finalement, on introduit l'élève, par exemple, à l'utilisation d'un prédicteur de mots, ben, est-ce qu'il va être en mesure vraiment de profiter pleinement des options qui s'offrent à lui à l'écran et non de regarder le clavier? Ça, c'est dans un premier temps, de regarder si l'élève est assez à l'aise au niveau de la vitesse de frappe. Après quoi, une fois qu'on juge que, somme toute, l'élève est assez à l'aise, c'est important aussi que l'élève, pour qu'il s'engage, à mon avis, dans la démarche, ben, qu'il comprenne les difficultés. Ça implique de faire une analyse vraiment fine, systématique des difficultés des élèves. Donc, que lui soit en mesure de comprendre ses forces et ses défis. Puis, comme tu le mentionnais au début, Christelle, ben, c'est vraiment, une fois qu'on a bien identifié ses défis de façon très fine, ben, c'est là qu'on va associer des fonctions d'aide qui permettent de répondre à ses besoins. Par exemple, dans le cas où, bon, on est toujours dans le contexte de développer la compétence en écriture, dans un premier temps, je m'assurais toujours de discuter avec l'enseignante, avoir une attitude de trace écrite. C'est pas juste des dictées, des productions de texte pour voir, bon, comment l'élève se débrouille, mais aussi demander à l'élève, lui, sa perception de ses difficultés, de ses forces, de ses défis. Souvent, ce qui va ressortir quand je demande à l'élève, par exemple, c'est quoi tes défis en écriture? Il va dire, je sais pas trop. Ou je sais que je fais beaucoup d'erreurs, je fais beaucoup de fautes. Puis on se dit, oh, faire beaucoup de fautes, qu'est-ce que ça implique? T'sais, souvent, il y en a qui vont se référer au cinquième critère de la grille d'évaluation, qui est relatif au respect des normes relatives à l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale. Déjà, si l'élève dit, bon, moi, je fais beaucoup de fautes en lien avec ces critères-là, d'entrée de jeu, il y a quelque chose à déconstruire. Pourquoi? Parce que c'est deux, l'orthographe d'usage, l'orthographe grammaticale, c'est deux objets d'apprentissage vraiment distincts. Il y en a un qui repose sur la mémorisation d'une suite de graphèmes, peu importe, t'sais, du contexte phrastique, alors que l'autre, l'orthographe grammaticale, t'sais, ça repose vraiment sur la compréhension, l'application de règles d'accord, le choix de la bonne marque d'accord selon le contexte. Fait que déjà là, il faut amener l'élève à se questionner sur quel type d'erreur, par exemple, il commet davantage. Si, par exemple, on arrive à amener l'élève à faire prendre conscience qu'il commet plus d'erreurs, par exemple, en orthographe d'usage, il faut se demander est-ce que les erreurs sont phonologiquement plausibles. Autrement dit, est-ce que le mot est mal orthographié, mais il sonne comme il devrait sonner? C'est un élément super important à considérer parce que ça va avoir une incidence, par exemple, sur le type de prédicteur qu'on va proposer à l'élève. Est-ce qu'on va lui proposer un prédicteur orthographique, un prédicteur phonologique, etc.? À l'inverse, si bon, les difficultés sont davantage en orthographe grammaticale, ben, il faut se demander qu'est-ce qui pose problème. Est-ce que c'est l'accord du verbe, l'accord en genre et en nombre des adjectifs? Puis on pourrait, la liste de questions à se poser est finie. C'est une information, encore une fois, qui est importante à considérer, à cibler, parce que ça va avoir une incidence sur la procédure de révision-correction personnalisée qu'on va proposer à l'élève. Puis pour aider ben, les élèves à se familiariser avec leurs forces, leurs défis en écriture, je le répète constamment, c'est important de collaborer étroitement avec les enseignants. C'est une mine d'or d'informations. Par exemple, à l'école où je travaillais avant d'être en fonction à l'Université du Québec en Outaouais, on s'est avec l'équipe d'enseignants de français au secondaire. On était parti de grille de révision-correction qui avait été proposée par Suzanne G. Chartrand, professeure didactique du français. On était parti de ces grilles-là qu'on avait adaptées puis appelées des profils de scripteurs. Profil de scripteur, après un an, en fait, ce que les élèves devaient faire, c'est qu'après chaque texte produit, ils devaient identifier, bon, par exemple, les enseignants disaient, bon, telle erreur, mettez un S au-dessus de l'erreur, disaient, bon, ça, c'est une erreur qui est relative au quatrième critère qui porte sur le respect des normes relatives à la syntaxe, la ponctuation. Ce profil de scripteur-là, l'élève avait un paquet de sous-catégories, puis devait identifier, donc, par exemple, j'ai omis quatre fois la virgule avant une conjonction de coordination, par exemple. Fait que ça venait préciser un petit peu puis sensibiliser les élèves à ses forces et ses défis. C'est une grille qui était évolutive. Fait qu'on disait, par exemple, en septembre, le texte que j'ai produit, ben, il y avait 8 erreurs de tel type. Puis, ah, en novembre, il y en a 4. Ça veut dire que je progresse. Donc, ça permettait à la fois à l'élève de prendre connaissance de ses progrès, mais en même temps d'être conscient des défis qui étaient propres à lui en écriture. Une fois que ce profil-là était fait de scripteur, ben, c'était beaucoup plus facile d'associer les fonctions d'aide qui étaient correspondantes.
Tu as dit à un moment donné, donc prendre le temps de faire cette analyse est essentiel. Puis j'aime beaucoup par rapport à ce que tu as mentionné, ben en fait, c'était super intéressant de A à Z, mais surtout quand tu as mentionné pour proposer une procédure personnalisée à l'élève. Et moi, j'ai peut-être comme ancienne étudiante ou même aujourd'hui un peu horreur du tout inclus, où est-ce qu'il faut mettre en rouge telle chose, en vert telle chose, absolument encadrer les verts, peut-être encercler d'eau. Donc, un peu ce qui cause sans doute une surcharge cognitive immense aux élèves.
Oui, clairement. C'est ça. On veut éviter qu'ils soient surcharges. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'adapter la procédure que lui vive des réussites.
Ça ramène aussi, quand on impose un peu un code de correction, des fois, il y a des enseignants avec, comme tu disais, la bonne volonté, mais qui reprennent une espèce de code de correction. Puis des fois, il y a peut-être trop d'étapes et ces étapes-là ne sont pas forcément utiles pour tous les élèves. Donc, de sélectionner quels sont les points de correction plus sensibles, je pense que ça peut être plus efficace même dans l'enseignement, en classe, pour l'ordinateur, etc.
Oui, tout à fait. C'est bénéfique pour tout le monde. Tout le monde, parce que tout le monde se sent interpellé par sa réussite. On sent que c'est un petit peu plus personnalisé. C'est parlant pour les enseignants, c'est parlant pour leur tour, c'est parlant pour l'élève. À mon avis, tout le monde bénéficie d'une évaluation précise des besoins.
Donc, on retient les grilles de révision et correction proposées par la professeure Suzanne Chartrand. J'invite les personnes qui nous écoutent à aller voir ses travaux. En fait, il y a beaucoup de choses très intéressantes en écriture. Alors, comme je disais au début de l'épisode, pour expliciter les différents outils d'aide technologique, on est parti de plus spécifique en parlant des habiletés de l'utilisation du numérique des élèves. On va un petit peu plus large. Donc, pour pouvoir attaquer ce grand sujet, tu nous avais proposé peut-être d'aborder deux profils d'élèves pour que ce soit plus concret. Est-ce que tu peux nous en parler davantage pour l'introduction graduelle des fonctions d'aide, justement?
Justement, une fois qu'on s'est assuré que les élèves sont familiers avec le vocabulaire associé bon, à l'utilisation de l'ordinateur, une fois qu'on a bien ciblé vraiment ces défis, c'est là je me permets d'introduire graduellement l'élève aux différentes fonctions d'aide qui répondent à leurs besoins. Important aussi de mentionner que je vais vous présenter deux petits cas, mais n'empêche que la démarche présentée varie toujours en fonction de l'aisance de l'élève avec les outils d'aide technologique. Aussi important, il y a une importance quand même de distinguer le logiciel des fonctions d'aide, mais je me permets quand même de mentionner que j'essaie quand même d'intégrer généralement d'introduire l'élève à un logiciel à la fois. Parce que là, si bon, un logiciel peut avoir plusieurs fonctions d'aide, là, si c'est on utilise deux logiciels, plusieurs fonctions d'aide différentes. On ne veut pas créer une surcharge. Donc, souvent, j'introduis un logiciel qui peut comporter plusieurs fonctions d'aide, un à la fois. Fait que, par exemple, je pourrais commencer pardon, avec la synthèse vocale et le prédicteur de mots, Glexiba. Une fois que c'est bien intégré par l'élève qui est en mesure de l'utiliser de façon autonome, systématique, puis on voit que ça a des effets. C'est là que j'introduisais, par exemple, fonction d'aide à la correction du logiciel antidote. L'objectif, c'est toujours d'éviter une surcharge, une petite bouchée à la fois. C'est comme quand on mange un gâteau au chocolat, là. Si on le mange en entier d'un coup, c'est très bon, mais on digère mal. On a plus de plaisir si on mange un petit peu à la fois. Fait que j'avais deux cas d'élèves à vous proposer. Premier cas d'élève, par exemple, c'est un élève qui a la difficulté avec la syntaxe. On pourrait observer, par exemple, qu'il produit des phrases trop longues. Ce que j'avais tendance à proposer aux élèves, c'est que, bon, dans un premier temps, une fois qu'il avait bon, produit un paragraphe ou son texte, je l'invitais à vérifier si, bon, les phrases produites avaient, en fait, étaient syntaxiquement correct. Pour faire ça, bien, je lui montrais d'utiliser la synthèse vocale. Je l'invitais à lire chacune des phrases produites. Puis après, cette fait lire chacune des phrases, c'est toujours la même séquence de questions qui revient. Et comme ça, il réfléchit uniquement à la syntaxe. Il ne pense pas à l'orthographe grammaticale, il ne pense pas à l'orthographe d'usage, au choix des mots. Le but, c'est vraiment de segmenter le questionnement des élèves pour s'assurer que tout son focus est sur le même motif. Fait que, par exemple, une fois qu'il se faisait lire la phrase, bien, je lui demandais, est-ce que, à ton avis, certaines des phrases que tu as produites sont trop longues? Si l'élève me répond oui, bien, est-ce que tu peux la séparer en plusieurs phrases? Après ça, il faut juger, jongler un petit peu avec l'intervention. Des fois, les élèves ne seront pas du tout conscients que les phrases sont trop longues. Fait que là, on peut s'adapter, mais bon, généralement, ça porte fruit. Mais dans le cas où l'élève n'est pas en mesure de s'en apercevoir, c'est sûr que là, bon, il y a peut-être une analyse un petit peu plus précise au niveau des constituants de la phrase qui peut être faite. Mais dans le cas où bon, ça va bien et que l'élève applique systématiquement la procédure avec la synthèse vocale, par exemple, de Lexibar, je tiens à préciser aussi que ça prend un certain temps. Ça prend beaucoup d'occasions de pratique avant que l'élève soit autonome. C'est là qu'on peut se demander est-ce qu'on introduit une deuxième fonction d'aide, par exemple. C'est là, par exemple, qu'on pourrait introduire l'analyse linguistique d'un texte à l'aide du correcteur d'antithèse, par exemple. Justement, toujours dans l'optique où l'élève produit des phrases trop longues, bien, il y a des fonctions avec Antidote où est-ce que ça nous permet de mettre en surbrillance les phrases longues, les phrases de 20 mots et plus, par exemple. Puis on peut jouer aussi avec le nombre de mots. Puis une fois que ces phrases-là sont mises en surbrillance, bien, on peut amener l'élève à transférer les questions qu'on se posait avec la synthèse vocale avec Antidote. Fait que, par exemple, il y a quatre phrases longues. Quatre phrases mises en surbrillance par Antidote, mais pour chacune de ces phrases-là, on va se demander, bon, est-ce que vraiment je la trouve trop longue? Si oui, est-ce que je peux la segmenter en plus de petites phrases? Autre chose qu'on peut faire aussi avec Antidote, c'est de vérifier le nombre de verbes conjugués se trouvant dans une phrase. Fait qu'autre chose qu'on peut faire, mettre en surbrillance tous les verbes et dire, ah, dans cette phrase-là, par exemple, il y a quatre verbes conjugués. Qui dit quatre verbes conjugués, on a combien de phrases syntaxiques à l'intérieur de la phrase graphique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut la segmenter en deux? Bon, si on peut se questionner sur la ponctuation, etc. Encore une fois, l'objectif, c'est toujours de s'assurer que l'élève se pose toujours les mêmes questions pour arriver à ce qu'il développe une réflexion qui est autonome avant d'introduire toute autre fonction d'âme.
Et juste faire un petit aparté, on va faire un épisode du balado sur la grammaire. Donc justement, on va consacrer un épisode justement sur les élèves qui ont des difficultés avec la grammaire, etc. Donc ça va pouvoir complémenter nos interventions, compléter nos interventions avec justement l'aide techno aussi.
Ah, parfait. Génial. Ensuite, par exemple, deuxième cas d'élève, disons qu'un élève qui a de la difficulté avec l'orthographe d'usage des mots. C'est là, dans un premier temps, je vais le sensibiliser à l'utilisateur, à l'utilisation, par exemple, d'un prédicteur orthographique, phonologique, peu importe. Ce qui va être important ici, c'est qu'en cours de rédaction, l'élève ne peut pas faire pas perdre le fil de ses idées, juste amener à identifier les mots pour lesquels il y a un doute. On veut que, bon, l'élève, pas nécessairement qu'il produise l'orthographe des mots correctement du premier coup. L'objectif n'est pas là. C'est surtout, bon, de faire évoquer les idées. Donc, en cours de route, par exemple, je me questionne, je ne sais pas, tel mot, tel mot, tel mot, je me questionne sur l'orthographe, je veux juste mettre un point d'interrogation, un astérisque, puis je reviens ensuite. Mais après ça, ce qu'il faut se demander, c'est comment utiliser correctement le prédicteur. Amener l'élève à préciser son doute. C'est là souvent que c'est compliqué. Par exemple, je vous donne le cas du mot échalote. Échalote, comment on l'écrit? Il y en a qui vont se questionner un L, deux L, un T, deux T. Par contre, la plupart des gens vont être certains qu'il va débuter par E accent aigu, CHA. Ça, cette portion-là, l'élève, il y a certains graphèmes qui composent le mot, puis il y a des doutes. L'objectif, c'est pour vraiment tirer profit du prédicteur de mots, de s'arrêter à l'endroit où est-ce que l'élève a un doute. Parce que très souvent, ce que la pratique montre, c'est que l'élève va écrire le mot au complet, va ensuite regarder l'écran pour se rendre compte que, ah, le prédicteur, il ne montre pas le mot que je veux. Fait que je continue. Fait que c'est vraiment amener l'élève à douter. Douter de à quel endroit j'ai un doute. Puis ça a l'air de rien, mais c'est pas évident. Quel son dans le mot échalote te fait douter? Ah, c'est le t. OK. Bon, ben écrit échalot. Puis après ça, le. Avant d'écrire le t, ben regarde. C'est quoi les différentes façons d'écrire le phonème t? Ah, puis écrire avec un t. Avec deux T. Bon, regarde qu'est-ce que la boîte de prédiction te propose. Puis, tout ça, c'est en lien, veux, veux pas, quand on dit que c'est important d'amener les élèves à développer une bonne connaissance des sons de la langue, être en mesure de faire tu sais, qu'ils soient très, qu'ils développent des bonnes habiletés en conscience phonémique, par exemple, mais là, ça prend tout son sens. Puis ensuite, une fois que, bon, l'élève est en mesure d'identifier le son qui le fait douter, mais c'est là qu'on va venir faire le lien avec les bonne correspondance graphème-phonème avec les bons visuogrammes. Donc, déjà là, il y a tout un travail linguistique à faire, amener l'élève à pas être trop impulsif, à prendre des pauses de façon systématique. Puis ça, je vous dirais que c'est un travail de très, très longue haleine qu'on sous-estime fortement. Donc, ça, déjà là, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à mettre en place. Une fois que ça, c'est fait, puis appliqué systématiquement par l'élève, ben c'est là que souvent j'invitais l'élève à utiliser la rétroaction dans la synthèse vocale. Donc, une fois que tu as regardé, que tu as pris le temps de douter, de vérifier dans ta boîte de correction, tu te le fais relire. Est-ce que le mot sonne comme il devrait? Super important. Puis souvent, les élèves ont tendance à dire, ah, oh, j'ai pas besoin de le lire. Avec la synthèse vocale, je le vois. L'important, c'est de sensibiliser nos élèves au fait que le cerveau, il filtre. Logiquement, on écrit des mots avec, tu sais, en se disant je ferai pas d'erreur, ou en tout cas, je les écris au meilleur de ma capacité. Donc, le cerveau a tendance à filtrer ça. C'est pour ça que la lecture par la synthèse vocale ou par un camarade de classe, c'est super pertinent. Donc, apprendre. Fait que là, c'est vraiment, une fois que l'élève utilise bien le prédicteur, on peut intégrer la synthèse vocale. Après, c'est là que, bon, par exemple, on peut amener l'élève aussi, après coup, à utiliser le dictionnaire numérique comme Usito, Antidote. Souvent, on me pose la question, pourquoi pas utiliser seulement un dictionnaire numérique? Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est vraiment la complémentarité des forces des logiciels qui amène l'élève à développer sa compétence à écrire des textes variés. Si on se fie juste à l'utilisation du dictionnaire Usito ou Antidote, on développe des habiletés de associer à la révision, correction. Si on utilise correctement le prédicteur, amener l'élève à douter de l'orthographe des mots, là, on développe sa compétence à orthographier des mots. Donc, l'utilisation vraiment complémentaire des fonctions d'aide, à mon avis, c'est ce qui est le plus efficace pour voir un bon développement de la compétence d'écrire des textes variés. Donc, voilà. Puis souvent, à la fin, tu sais, peu importe le cas d'élève, peu importe ses besoins, les besoins, les défis qu'on a ciblés, le fameux correcteur de Antidote avec les lignes rouges, jaunes et pointillées, ça, je le mets à la toute fin. Pourquoi? Parce que souvent, les lignes rouges, ben, Antidote nous indique, bon, ce que je te propose, je suis sûre à 95 %. Les lignes jaunes, ben, ah, je crois qu'il y a eu une erreur, mais prends la peine de vérifier. Alors que les lignes pointillées, ce qu'on appelle les fameuses ruptures, Antidote sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il n'est pas en mesure de dire c'est quoi, alors débrouille-toi. Puis souvent, quand on garde cette procédure-là pour la fin, bien, si l'élève, par exemple, a tendance à commettre plusieurs erreurs de syntaxe, puis on les corrige au préalable, bien, toutes ces erreurs de rupture-là, ça va être diminué à la toute fin. Fait qu'on vient épurer, puis là, Antidote est en mesure de faire une analyse plus fine des erreurs restantes. Donc, beaucoup moins de frustration de la part de l'élève.
On retient beaucoup les besoins, mais c'est aussi très intéressant d'entendre expliciter les différentes fonctionnalités qu'on retrouve dans ces outils, puis bien sûr faire la distinction entre fonction d'aide puis le logiciel en tant que tel. Et ce que tu amènes ici résonne beaucoup avec du contenu que, en fait, une collègue qui est conseillère pédagogique en intégration des outils d'aide technologique auprès des jeunes au HDAA aime présenter les nouveautés, ben, la nouvelle version d'Antidote dernièrement, mais surtout les différentes fonctionnalités. Il y a tellement de choses que j'ignorais parce que, bon, bien sûr, ben, et auxquels tu as fait mention, que ce soit la longueur des phrases, mais même aller chercher les occurrences et tout. Donc,
Oui.
nous-mêmes, en tant qu'orthopédagogues, c'est super important qu'on soit bien à l'aise et qu'on aille chercher ces informations-là, qu'on aille se former pour mieux accompagner et pour mieux extraire la fonction qui va venir soutenir le besoin de l'élève.
Oui, tout à fait. Puis c'est un travail de longue haleine,
Oui.
vraiment de longue haleine, qui demande, c'est sûr, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc, nous, dans un premier temps, comme professionnels, être en mesure de connaître les différentes fonctionnalités des différents logiciels. C'est pour ça que je me permets toujours de référer mes étudiants au récit, parce qu'ils ont fait un travail incroyable au niveau de d'écrire, je pense, un petit peu plus d'une cinquantaine de fonctions d'aide, faire les liens avec les logiciels, montrer des exemples d'applications, c'est une mine d'or qui permet, à mon avis, aux orthopédagogues de bien, tu sais, faire le lien entre besoin de l'élève et quoi utiliser pour arriver à pallier ces difficultés-là. Donc.
Justement, tu nous parles du récit, puis pour clore cet épisode, en fait, on voulait te demander si tu avais des conseils aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent pour des ressources. Il y en a beaucoup, mais des ressources où aller chercher des outils pour se former, si tu peux nous en nommer quelques-unes.
Ben, dans un premier temps, le récit, ça c'est certain, c'est un incontournable, que ce soit leur site Internet, il y a un paquet de ressources disponibles, notamment la typologie des fonctions d'aide auxquelles je me réfère très souvent, et des parcours d'auto-formation. En plus, j'ai vu dernièrement sur leurs réseaux sociaux, dans le cadre du mois de décembre, ils publient des belles découvertes que je trouve franchement bien, donc ça nous permet de nous tenir à jour. Un autre incontournable, à mon avis, c'est la participation au colloque symposium de l'ADOC. À chaque année, il y a des belles activités en lien avec ça. Par exemple, au colloque qui a eu lieu à l'automne, j'ai cité une conférence des conseillers pédagogiques du service scolaire de Montréal sont venus présenter la façon dont ils organisent leurs services et l'attribution des outils d'aide technologique. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Aussi, au niveau de la doc, il y a une belle programmation, activité de développement professionnel. Justement, le récit est appelé à offrir plusieurs formations à différents moments durant l'année. Donc, vraiment, pour moi, à mon avis, la doc, au niveau de son offre d'activité de développement professionnel. Autre source aussi, des fois, j'encourage fortement les professionnels à aller consulter le site des compagnies qui offrent différents. Par exemple, Lexibar offre des formations personnalisés, ils ont des capsules vidéo, très très bien. Deux incontournables aussi, à mon avis, les travaux de Pascal Grégoire, professeur en didactique du français à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je pense en 2015-2016, un projet financé, je me souviens plus par quel organisme. Je crois que c'est le Fonds de recherche québécois Société Culture, vous vérifiez. Puis mener une recherche justement comment utiliser les fonctions d'aide avec Antidote pour aider les élèves à l'épreuve d'écriture de cinquième secondaire. Il y a aussi toute Audrey Fortin qui est orthophoniste, qui a développé beaucoup de matériel en lien avec ça que je trouve vraiment génial, du très beau matériel. Voilà, ressources en vrac comme ça que je serais portée à vous nommer.
Et puis, mais je vais juste préciser que je vais mettre les différents liens ou des liens vers les ressources que tu mentionnes en dessous de notre épisode, que ce soit sur Anchor ou les différentes plateformes de diffusion. Puis un petit teaser pour un prochain épisode qui sortira en 2023, dans lequel on aura le plaisir d'accueillir Pascal Grégoire. Donc,
Ah, bon, voilà.
on est bien chanceuse avec le réseau. Oui, mais merci beaucoup pour ces ressources, en fait. Puis, on va vraiment prendre le temps de te remercier pour ton temps et ta participation à cet épisode. Vraiment, ta contribution a été précieuse. Puis, on espère que les auditrices et auditeurs ont autant apprécié l'épisode que nous.
Ben, ça m'a fait grand plaisir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Le balado Micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akhoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.